Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Assions-nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que chacun d'entre nous essaie de dire à son voisin juste à côté, est-ce que tu entends le bruit de la pluie? Est-ce que tu entends le bruit de la pluie? David déclare que le Saint-Esprit est comparé à la pluie, à la rosée de l'Hermon qui arrose la terre. La pluie, c'est le symbole du réveil. Et lorsque nous chantons, il commence à pleuvoir. Nous prophétisons sur la vie de chaque personne ici, mais également nous prophétisons sur la vie de l'Église entière, et nous prophétisons sur la vie de cette nation, parce que notre mission, c'est de pouvoir susciter un réveil dans ce pays. Alléluia. Avec tous ceux qui ont reçu l'appel pour combattre ensemble et déclencher le réveil dans ce pays par l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous pouvons apporter des paroles prophétiques sur la nation et dire, il commence à pleuvoir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère à côté, il commence à pleuvoir. Le réveil va venir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et moi je crois au réveil dans ce pays, je crois au réveil dans cette église, et je crois réellement, comme disait le pasteur, que cette église va être bondée de monde. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Luc, chapitre 7, 36 à 50. C'est l'histoire d'une femme pécheresse qui répand un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Elle déclare qu'un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme qui était pécheresse. Et comme dans la loi juive, il était interdit pour une femme prostituée de se tenir en public et encore d'entrer dans une maison d'un pharisien comme Simon. Et donc lorsque, à cette époque, une femme était reconnue pécheresse, prostituée, elle était mise à l'écart. Elle n'était pas considérée dans la société, elle était rejetée. Et lorsqu'elle essayait de s'approcher de quelqu'un, les gens fouillaient. Elle était marginalisée. Et donc, vous imaginez un peu le regard de la société sur cette femme. Et la situation de cette femme était telle qu'en fait, elle avait besoin de se sentir aimée. Elle avait besoin de se sentir comprise. Elle avait besoin d'être pardonné. Mais personne dans sa société ne lui témoignait cela. Et il se trouve qu'elle a entendu parler de quelqu'un, de Jésus. Et donc dans la loi juive, en fait, lorsqu'on recevait un prophète en qualité de prophète, parce que le prophète ou le sacrificateur représentait Dieu sur la terre, il y avait trois actes qu'il fallait accomplir pour reconnaître la grandeur de la personne que vous recevez chez vous, pour reconnaître sa divinité. Il fallait faire trois choses. Premièrement, il fallait, lorsqu'il entre chez vous, courir vers lui, l'embrasser et le couvrir de baisers. Simon-Pierre ne l'a pas fait lorsque Jésus est rentré chez lui. Deuxièmement, il fallait lui laver les pieds. Simon-Pierre ne l'a pas fait. Et troisièmement, il fallait soit lui oindre d'huile ou de parfum. Simon-Pierre ne l'a pas fait. Pourquoi il fallait poser ces actes? Parce que dans les règles de la célébration de culte et dans les ordonnances relatives au culte, le parfum était utilisé pour le sacrifice. Et on n'utilisait pas n'importe quel type de parfum. La Bible nous enseigne qu'on utilisait un parfum de grande marque, de grand prix. Et lorsque vous lisez le livre d'Exode, le livre de Lévitique, vous voyez les ordonnances et les lois relatives au culte. La Bible déclare que lorsque Aaron rentrait dans le tabernacle, dans le sanctuaire, dans son sacerdoce, lorsqu'il entrait pour la sacrificature, il offrait des sacrifices à Dieu et il brûlait sur l'autel un parfum. Et ce parfum était un parfum de bonne odeur qui montait vers Dieu et qui était d'une odeur agréable. Donc voyez-vous, en fait, le parfum ici était un objet de sacrifice. Il était utilisé pour le culte. Et le culte, ça signifie l'adoration. Donc, le parfum était un objet d'adoration. Et l'usage du parfum était un acte d'adoration. Donc, ce que la femme, dans ce passage, cette femme est en train de faire ici, en fait, ce n'est pas quelque chose d'étranger à la culture des pharisiens, des juifs. Elle savait ce qu'elle faisait. Et c'était d'une grande signification, d'une grande portée spirituelle. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, au verset 1 à 2, lisons ensemble. Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Nous allons aller au verset 10 jusqu'au verset 11. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » La myrrhe aussi est un type de parfum, de grande marque. Vous comprenez qu'en fait, la célébration du culte, telle que en fait, la parole de Dieu l'enseigne, ne se limitait pas seulement à chanter des cantiques, à jouer des instruments, à célébrer de façon solennelle, comme nous pouvons le voir dans les Lévites, etc., avec des chantres, avec des chanteurs, avec des instruments. En fait, l'adoration, le culte qu'on rendait à Dieu ne se limitait pas seulement au chant qu'on chantait lors de la célébration du culte. Mais à ces chants, à cette célébration, en dehors des chants, étaient ajoutés des actes que l'on devait poser, et sont des actes qu'on appelle des actes d'adoration, qui entrent dans le cadre du culte, à savoir, par exemple, les sacrifices, le parfum, les trésors. Il y en a qui apportent de l'argent, il y en a qui apportent des offrandes, des dons. Donc, toutes ces choses-là faisaient partie de la célébration du culte. Ce n'était pas seulement la louange, ce n'était pas seulement les chansons, ce n'était pas seulement les cantiques. Il y avait aussi des actes, des objets qui étaient apportés. Donc, tout cela faisait partie du culte, du sacrifice qui était offert au Seigneur en signe d'adoration. Voilà pourquoi les rois mages disent, nous avons entendu parler de ce Jésus, cet enfant qui est né. Nous sommes venus pour l'adorer. Et comment il adore? La Bible déclare que quand ils arrivent, quand ils ont vu le petit enfant Jésus, avec Marie sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc ce que cette femme est en train de faire ici, c'est pas étranger, mais ça entre en fait dans le cadre des ordonnances relatives à la célébration du culte. Lorsque vous recevez en fait un prophète, ou lorsque vous venez pour adorer le Seigneur, voici les actes qu'il fallait poser à cette époque. Jusqu'à présent, vous me suivez? Vous êtes avec moi? Alléluia! Ça va pour tout le monde là? Amen! Donc, c'était pour vous permettre de comprendre un peu pourquoi cette femme a fait cela. Maintenant, le titre de mon message ce matin, c'est la portée spirituelle du parfum de nard. En d'autres termes, la valeur spirituelle du parfum que cette femme a répandu sur la tête de Jésus. Je me suis un peu renseigné, et selon les spécialistes en parfumerie, en fait, un parfum de grande marque, de grande valeur, se reconnaît par trois caractéristiques essentielles. Premièrement, il se reconnaît par son odeur. Deuxièmement, il se reconnaît par son prix. Et troisièmement, il se reconnaît par la qualité du vase qui le contient. Alléluia. Ça va pour tout le monde? Donc, lorsque je parle de la valeur spirituelle, de la portée spirituelle du parfum de nard, j'aimerais essayer de vous partager ces trois vérités spirituelles qui sont liées aujourd'hui aussi à notre vie en tant qu'enfant de Dieu et à notre adoration pour le Seigneur, au culte que nous devons rendre à notre Dieu. Pour que notre sacrifice soit agréé par Dieu, pour que notre sacrifice soit réellement un sacrifice de bonne odeur, il faut que, en fait, ce soit un sacrifice qui soit pour Dieu un parfum de grand prix. Et donc, qui soit d'une bonne odeur, qui soit d'un grand prix, et que le vase qui le contient aussi puisse être un vase de qualité. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles, premièrement, dans le livre de Esdras, chapitre 6, verset 10. Jour par jour et sans manquer, afin qu'il offre des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'il prie pour la vie du roi et de ses fils. J'aimerais que vous puissiez souligner le mot « sacrifice de bonne odeur ». Nous allons encore lire un autre passage dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Dieu reconnaît la nature de notre sacrifice par la qualité de son odeur. si notre sacrifice, si nous voulons que notre sacrifice soit agréé par Dieu, il faut que l'odeur de notre sacrifice soit bonne pour que cela parvienne à Dieu lorsque nous l'adorons, lorsque nous célébrons un culte. Je notais que Dieu n'agrée que des sacrifices d'une odeur agréable. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique, vous allez vous rendre compte que tous les parfums qui étaient offerts à Dieu étaient tous des parfums de bonne odeur. Tout simplement parce que Dieu reconnaît la nature de notre sacrifice, Dieu reconnaît la nature de notre adoration, Dieu reconnaît la nature de notre louange, Dieu reconnaît la qualité de notre louange de par la qualité de son odeur. Alléluia! Donc si nous voulons réellement que notre adoration, notre culte, notre louange soit agréé par Dieu, il faut que nous soyons rassurés que ce que nous offrons à Dieu est quelque chose d'une agréable odeur, d'une odeur agréable qui fera plaisir à Dieu. Voilà pourquoi dans Esdras, il est dit, j'offrirai à l'Éternel des sacrifices d'une odeur agréable. Et lorsque la femme vient offrir le parfum à Jésus, elle s'assure que c'est un parfum d'une odeur agréable. Souvenez-vous que je suis en train de vous parler de trois caractéristiques d'un parfum de grande valeur. Je suis en train de vous parler, en fait, de la portée spirituelle du parfum de nard. Et pour reconnaître un parfum de grand prix, la Bible déclare, en fait, qu'il fallait premièrement qu'il soit d'une odeur agréable. Et aujourd'hui, les spécialistes, même en parfumerie, sont tous d'accord pour dire, pour connaître un parfum de grand prix, il faut que premièrement, il soit un parfum d'une odeur agréable. Et lorsque la femme pécheresse vient vers Jésus, en fait, elle sait ce qu'elle fait. Cela a été inscrit dans les ordonnances, cela a été inscrit dans les règles du culte à cette époque, mais elle savait que pour qu'elle s'approche de Jésus, parce qu'elle savait qui était Jésus, ce n'était pas n'importe qui, il était un prophète, il était Dieu, alors parce qu'elle venait vers lui pour lui offrir, non pas un simple sacrifice, mais pour lui offrir son adoration, alors elle s'est assurée que le parfum qu'elle devait donner à Jésus était un parfum d'une odeur agréable. Premièrement, il faut que le parfum que nous offrons à Dieu soit d'une odeur agréable. Deuxièmement, il faut que ce parfum soit un parfum de grand prix. Dans 2 Samuel chapitre 24, verset 24, lisons ensemble. Un jour, la colère d'Éternel s'enflamme sur le peuple parce que le roi David, il a fait le dénombrement et il n'a pas fait comme Dieu l'avait demandé de faire. Alors, Dieu se met en colère et Dieu veut frapper le peuple. Et l'Éternel a envoyé la peste en Israël. Et ce qui se passe, c'est que le roi David va supplier la grâce de Dieu pour le pardon du peuple. Mais il doit y offrir à Dieu un sacrifice. Et le prophète Gad vient auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, le prophète, comme l'Éternel l'avait ordonné. Lorsqu'il arrive donc chez Aravna, il demande donc à Aravna, en fait, de lui donner un certain nombre de choses pour le sacrifice. Et qu'est-ce que ce dernier lui dit? Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus du peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre le sacrifice qui lui plaira. Vois les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi David. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, c'est le verset 24 maintenant, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, les holocaustes qui ne me coûtent rien. Alléluia. Aravna veut offrir au roi l'air pour construire l'autel, pour le sacrifice. Aravna veut offrir au roi tous les éléments nécessaires pour le sacrifice, mais de façon gratuite. Mais le roi David dit à Ravna, non, parce que c'est pour l'offrande, parce que c'est pour le sacrifice, parce que c'est pour l'holocauste, je refuse de prendre ces éléments sans rien payer, parce que je n'offrirai pas à mon Dieu un sacrifice, une offrande, un holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. Je suis en train de vous parler ici de la valeur d'un parfum, de la portée spirituelle du parfum de nard. Et donc, pour qu'un parfum soit reconnu comme étant un parfum d'une grande valeur, il fallait que ce soit un parfum qui coûte, qui soit d'un grand prix. Vous savez, je notais que la qualité de nos sacrifices, de nos offrandes ou des dons que nous offrons dans la maison de Dieu révèle le degré d'amour que nous avons pour Dieu. J'ai encore noté que la nature de nos sacrifices, de nos dons, révèle le degré de reconnaissance que nous avons envers ce Dieu. J'ai encore noté que la nature de nos sacrifices révèle le niveau de consécration et de considération que nous avons envers Dieu. J'ai encore noté que la nature de nos sacrifices révèle le niveau de consécration et de considération que nous avons envers Dieu. Et j'ai encore noté que la qualité des dons ou des sacrifices que nous offrons à notre Dieu révèle l'image que nous nous faisons de ce Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si réellement nous aimons le Seigneur, si réellement nous avons beaucoup d'amour pour le Seigneur, la Bible dit que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur. Ça veut dire en d'autres termes que nous devons donner, nous devons offrir à Dieu proportionnellement au degré d'amour que nous avons pour le Seigneur. Alléluia. Plus nous aimons le Seigneur, plus nous lui offrons. Plus nous aimons le Seigneur, plus nous lui offrons le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. Et cette femme avait compris cela. Elle avait compris qu'elle avait en face d'elle pas quelqu'un d'ordinaire. Elle n'avait pas en face d'elle un homme ordinaire. Elle n'avait pas en face d'elle quelqu'un que tout le monde connaît comme ça et puis quelqu'un de vulgaire. Elle avait en face d'elle un prophète, oui, mais plus qu'un prophète, elle avait en face d'elle Dieu lui-même. Et par conséquent, en fait, l'objet de son sacrifice ne devait pas être quelque chose de léger. Il fallait que ce soit quelque chose d'une bonne odeur, mais que ce soit quelque chose qui lui coûte. Parce qu'elle voulait simplement offrir à Jésus son amour, lui exprimer son amour. Voilà pourquoi Jésus peut dire à Simon-Pierre que cette femme, elle a aimé plus. Et celui qui aime, celui à qui on pardonne plus, aime plus. Cette femme avait compris que, en fait, toute la société avait le regard tourné vers elle et la regardait avec des regards accusateurs. Et que Jésus était le seul qui était capable de lui pardonner. Alléluia. Et devant la grandeur de l'amour de Jésus, devant la grandeur du pardon de Jésus, elle s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que j'offrirai en reconnaissance? Combien de personnes d'entre nous aujourd'hui ce matin ont expérimenté des choses merveilleuses dans leur vie avec le Seigneur? Dieu nous a délivré des situations incroyables. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu a pardonné nos péchés. Des péchés que même aucun homme sur cette terre ne pouvait pardonner. Dieu a pardonné nos péchés. Dieu a lavé notre cœur. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a guéris. Nous avons besoin d'emploi. Dieu nous a donné un emploi. Beaucoup de personnes dans cette assemblée, le pasteur a prié pour vous. Vous étiez sans emploi et vous avez obtenu un emploi. Dieu vous a secouru dans des situations difficiles. Vous étiez malade, Dieu vous a guéri. Vous avez besoin d'être aimé, Dieu vous a aimé. Vous avez besoin de pardon, Dieu vous a pardonné. Mais quel est le sacrifice? Quel est l'objet du sacrifice que vous voulez apporter à ce Dieu pour lui exprimer votre reconnaissance, pour lui exprimer votre amour, pour lui exprimer votre considération de sa personne? Pour lui exprimer, en fait, la grandeur de l'image que vous avez de ce Dieu. Parce que voyez-vous, la nature de nos dons, de nos sacrifices, révèle le degré de reconnaissance et d'amour que nous avons pour le Seigneur. Révèle le degré de considération que nous avons pour ce Dieu. Révèle, en fait, la nature de l'image que nous faisons de ce Dieu. Si ce Dieu est petit à nos yeux, nous ne le ferons que de petites choses, que des miettes. Même dans notre adoration, même dans notre consécration, même dans notre vie chrétienne, il ne sera pas notre priorité si l'image que nous avons de lui, c'est l'image d'un petit Dieu. Dieu ne sera jamais notre priorité. Nous ne lui consacrerons jamais assez de temps dans la semaine. C'est pourquoi vous remarquerez que beaucoup de personnes ne viennent même pas au réunion d'enseignement le mardi, ne viennent même pas au réunion de prière, et viennent très peu même le dimanche à l'église, rarement. Mais ce n'est que l'expression de l'image qu'ils ont de Dieu dans leur cœur. Ce n'est que l'expression du niveau d'amour, du degré d'amour qu'ils ont pour le Seigneur dans leur cœur, du niveau de considération qu'ils ont pour le Seigneur dans leur cœur. Bien-aimés, quand vous avez réalisé la grandeur du sacrifice de Jésus sur la croix, à cause de vous, il est mort pour vous, il a été flagellé, il a été meurtri, son sang a coulé innocemment, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il a été fait meurtrier à ta place, il s'est fait malédiction à ta place, il est descendu même aux enfers, il a affronté les puissances des ténèbres à cause de toi. Il a tout fait pour toi. Il a pardonné tes péchés. Il a lavé tes iniquités. Il les a expiées. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour toi? Tu étais malade, il t'a guéri. Tu étais lié, il t'a délivré. Tu avais besoin d'un travail, il t'en a donné. Tu étais dans la faim, il t'a nourri. Et qu'est-ce qu'il ne fait pas pour toi chaque jour de ta vie? Il continue à le faire. Et chaque jour, il pardonne nos iniquités, il guérit nos maladies, et nous le chantons chaque jour. C'est toi qui pardonnes mes iniquités, qui me guéris toutes mes maladies. Tes bontés pour moi sont inépuisables. Elles se renouvellent chaque matin. Ce merveilleux Dieu, il est présent chaque jour. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu as gardé mes enfants, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais voyez-vous ce que Dieu fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous, et ce qu'il fera encore pour nous. Alléluia! Et devant la grandeur de ses œuvres, bien-aimés, pourquoi cette ingratitude? Tout ce qu'il nous demande ne représente même pas le 0,00000001% de ce qu'il a fait pour nous. C'est rien par rapport à ce que Christ a fait pour nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est qu'en retour, nous puissions lui donner notre amour, notre cœur, notre vie, notre temps, notre disponibilité, notre consécration, notre investissement dans son œuvre.
Alléluia.
Vous savez, le prix du sacrifice que nous offrons à Dieu est lié à la nature de notre sacrifice. Quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 4, versets 1 à 10, on raconte l'histoire de Caïn et Abel. Abel était berger. Caïn était laboureur, agriculteur. Les deux ont offert à Dieu des sacrifices. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. La Bible déclare qu'Abel a offert à Dieu les prémices de son bétail. Et qu'est-ce que Caïn a offert à Dieu? Il a offert à Dieu des fruits parmi tant d'autres. Et la Bible déclare que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Et Caïn est en colère. Pourquoi? Il n'avait pas compris que, en fait, Abel, le sacrifice d'Abel était d'une agréable odeur au Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sacrifice remplissait les trois critères. Premièrement, un sacrifice de bonne odeur. Deuxièmement, il lui coûtait. Parce que voyez-vous ce qu'Abel a fait? Offrir le premier-né de son bétail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si aujourd'hui vous trouviez du travail. Et que votre premier mois de salaire, alors que vous êtes dans des difficultés monstrueuses, vous êtes dans des problèmes incroyables, vous venez de trouver un travail, c'est le moment de régler toutes les factures, vous prenez maintenant le premier salaire qu'on vous a donné pour l'offrir à Dieu. C'est incroyable. Ça coûte, hein? Ça fait mal. Tu imagines ceux qui sont mariés, je crois que ça peut mettre une cause de divorce. Hein. C'est grave. Et c'est ce qu'Abel a fait. Quelque chose qui lui coûtait, il a offert à Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur le sacrifice d'Abel. Elle veut dire que Jésus, un jour, alors qu'il parcourait la terre, il s'est arrêté dans le temple pour regarder les gens qui donnaient les offrandes au Seigneur. Et là, il suivait des milliardaires qui arrivent et qui offrent à l'autel des sacrifices, des offrandes selon leur superflu. Ils donnent. Et là, quelque part dans le coin de la salle, il y avait une femme qui n'avait qu'une seule petite pièce qui lui restait pour vivre. C'était toute sa vie. Elle s'est élevée. Elle est venue devant l'autel. Elle a offert ce qui lui restait pour vivre. Et Jésus dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Alléluia. Ça lui a coûté hein, le prix du parfum de nard. Je suis en train de vous parler de la portée spirituelle du parfum de nard. Alléluia. C'est-à-dire la valeur du sacrifice que nous apportons à notre Dieu. Alléluia. Et je disais qu'en fait, pour qu'un sacrifice, un parfum, soit reconnu comme étant un parfum d'une valeur, d'une grande valeur, d'une très grande valeur, il fallait qu'il remplisse trois caractéristiques essentielles. Premièrement, il fallait qu'il soit d'une bonne odeur. Deuxièmement, il fallait qu'il coûte cher, qu'il soit d'un grand prix. Alléluia. Et lorsqu'on offrait à Dieu les sacrifices, selon l'ordonnance, les ordonnances et les règles du culte dans la Bible déclare qu'ils offraient à Dieu des sacrifices. Il y avait des sacrifices, c'était des parfums de la myrrhe, du nard et des parfums de grand prix qui étaient offerts à Dieu. Et ces parfums, c'était des parfums qui remplissaient ces critères parce que c'était d'une odeur agréable à l'Éternel. Et nous aujourd'hui, la Bible déclare que c'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Parce que nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance, ces choses ont leur correspondance dans nos temps et notre génération. Ces choses trouvent leur signification dans notre génération et dans notre époque aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire le parfum de nard pour nous aujourd'hui? C'est simplement l'objet de notre sacrifice à Dieu. C'est simplement le symbole de notre sacrifice, de nos dons, de notre offrande. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aimerais que, en fait, ce que j'aimerais vous faire comprendre, bien aimé, ce matin, c'est qu'en fait, l'adoration, le culte que nous rendons à Dieu, ne se limite pas seulement aux chants, aux cantiques, aux instruments, à la musique. Mais le culte englobe les chants, la musique, les cantiques et les actes que nous posons pour le Seigneur. En termes de consécration, en termes d'engagement, de disponibilité dans le temps, hein, dans la fréquence au niveau des réunions, dans l'investissement dans l'œuvre du Seigneur, dans l'implication en ce qui concerne en fait l'œuvre du Seigneur, également dans la nature de dons que nous offrons au Seigneur. Je vous dis, un chrétien qui n'arrive même pas à donner sa dîme au Seigneur, son adoration, son culte à Dieu ne peut pas être un culte d'une odeur agréable. Parce que la dîme, c'est même pas les promesses. La dîme, c'est le 1/10 que le Seigneur a recommandé à chacun de ses enfants de donner à sa maison afin qu'il ne manque point de nourriture dans sa maison. Je pense souvent à l'exemple de l'avocat. Ça existe ici. Le noyau de l'avocat. Quand vous consommez l'avocat et que vous, si vous consommez, vous détruisez son noyau, vous le consommez aussi ce noyau, en fait, vous ne pourrez plus planter un avocat. Et on n'aurait plus l'avocatier. Et au fil des temps, des générations, l'espèce va disparaître. C'est pareil avec la dîme. Pour que le Seigneur continue à perpétuer l'espèce de vos finances dans votre vie, il faut garder le noyau que vous remettez sous la terre. Donc Jésus, il faut planter. Ce noyau ne doit jamais être consommé ni détruit. Et ce noyau, c'est la dîme, simplement. Et après, donc, le fruit de l'avocatier va porter d'autres fruits. Et va perpétuer au fil des générations l'espèce d'avocatier. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans l'église sont frappés par la malédiction financière parce qu'ils ne donnent pas leur dîme au Seigneur. Quand vous avez vos revenus à la fin du mois, vous devez enlever le 1/10 de vos revenus pour donner au Seigneur. Afin que Dieu protège vos finances, que Dieu protège votre maison et que la famille ne s'abatte pas sur votre maison. Parce que parfois il y a des dépenses un produit qui arrive, c'est la voiture qui tombe en panne, vous n'avez pas prévu cela, ça vous coûte même plus cher que ce que vous aurez donné au Seigneur pour la dîme. Mais c'est parce que c'est celui qui dévore, qui vous crée des dépenses inutiles, qui vous ouvre des portes de dépenses. Et comme vous n'avez pas donné au Seigneur, Dieu ne protège pas vos finances. Donc vos finances sont exposées. Et le diable est celui qui vient pour dévorer, égorger et détruire. Et il détruit. Donc la dîme sert au Seigneur pour sa maison et pour vous, pour la protection de vos finances. Et ensuite, il y a les offrandes, il y a les dîmes, plutôt il y a les offrandes, il y a les sacrifices qui viennent ensuite selon la nature de ce que nous voulons offrir au Seigneur. Et ça, c'est selon l'amour que nous avons pour notre Dieu, comme nous le voyons actuellement. La nature de nos sacrifices détermine le degré d'amour que nous avons pour notre Dieu. Alléluia. 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 Amen. Je vais terminer en parlant de la troisième caractéristique. En fait, qui nous permet de reconnaître un parfum de grande valeur. Je disais premièrement qu'il fallait que ça soit un parfum d'une bonne odeur. Deuxièmement, un parfum de grand prix. Et enfin, troisièmement, il fallait que le vase qui le contienne soit de qualité. Donc la qualité du vase qui le contient. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 20. On va terminer par ce point. Si quelqu'un a la page, il pourra élever sa voix, ça fera un peu participer tout le monde. 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. Si donc, nous allons lire à partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un vase vil, d'un usage vil. Les uns sont d'un usage d'honneur. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Nous allons lire Romains chapitre 9, verset 20. Romains, il est tenté de jouer. Chapitre 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Nous allons lire Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Et dans le livre d'Hébreux, je vais vous citer ça, verset 9, chapitre 9, verset 4. Lorsqu'on parle des objets qui étaient en fait dans le lieu très saint pour le sacrifice, pour le culte qui était rendu à Dieu, la Bible déclare qu'il y avait la manne qui était contenue dans un vase d'or. Et donc, scripturellement, selon la Bible, il nous a ici prouvé que le vase en fait, représente simplement la vie du chrétien que nous sommes, des chrétiens que nous sommes. Donc, le vase, c'est le symbole de nos vies. Et donc, pour que, en fait, notre offrande soit une offrande de grande valeur, pour que notre parfum soit un parfum de grande valeur, il faut que la qualité du vase qui le contient soit pure, comme de l'or. Elle déclare que pour que nous soyons des vases d'honneur, elle déclare que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc même le vase lui-même, il n'y a pas que le parfum qui est contenu, même le vase lui-même est un objet de sacrifice sur l'autel lorsque nous venons rendre un culte à Dieu. La qualité du vase qui contient le parfum doit être pure.
pour qu'il soit utile à son maître, pour qu'il soit un vase d'honneur. Pourquoi Caïn, Dieu n'a pas agréé son offrande? Mais parce que déjà lui-même, dans son cœur, il avait de la haine. Et cela s'est manifesté lorsque Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Il a tué son frère. Donc Dieu lui-même, au-delà même du sacrifice, il voyait le vase. Et il voyait que dans le vase, il y avait de la haine. Il y avait de la colère. Il y avait de l'animosité. Il y avait de la jalousie. Donc même le vase lui-même, lorsque nous venons offrir un parfum de nard au Seigneur, il faut que le vase qui contient ce parfum soit un vase d'une bonne qualité, d'une qualité pure, irrépréhensible, sainte devant le Seigneur, afin que notre sacrifice soit agréé par le Seigneur. Alléluia! Il n'y a pas que l'odeur, il n'y a pas que le prix, mais il faut aussi que le vase soit un vase d'une bonne qualité. Et le vase représente nos vies. Le vase représente nos vies. Elle déclare que nous devons nous conserver saints, purs, irrépréhensibles. Pour que lorsque nous venons dans la présence du Seigneur pour lui offrir nos sacrifices, que nos sacrifices soient agréés par le Seigneur. Mais si dans nos cœurs, il y a de la haine, il y a de l'amertume, il y a des colères, il y a des jalousies, il y a de l'animosité, il y a des disputes, il y a des rancunes, notre sacrifice ne pourra pas être agréé par le Seigneur. Même s'il coûte cher pour nous. Même s'il coûte cher pour nous. Bien-aimé, je vous disais au départ que dans cette église, je vais combattre deux choses. Les péchés et les démons. Et si nous voulons réellement que notre sacrifice, notre adoration, notre culte soit agréable au Seigneur, débarrassons-nous de tout péché qui nous environne si facilement. Libérons-nous de tous les liens. Parce que, bien aimé, lorsque nous aimons le Seigneur,